Vous écoutez, on lit pour vous.
J'ai été de ces hommes ayant refusé de l'aide. Un texte de Gaston Bourdage, paru le 9 avril 2025 dans La Voix de l'Est. J'ai été de ces hommes ayant refusé de l'aide de M. Chalifour, voulant que c'est pas sexy d'aider les hommes. J'ai été de ces hommes ayant refusé l'idée que j'avais besoin d'aide, de ces hommes n'ayant pas demandé d'aide, et j'ai aussi été de ces hommes souffrant de la maladie de la staccose. Vous connaissez? Staccose de mon père, de ma mère, de mon ex-associé. Staccose de et de. Discours que je tenais à mon agente de gestion de cas au pénitencier de Coinsville. Et Francine, de son prénom, un jour, n'en pouvant plus de m'entendre et m'écouter, de me dire dans une certaine solennité de ton et de regard, « Monsieur Bourdage, cela fait un temps que nous travaillons ensemble et je vous entends dire que c'est à cause de et de et de. J'ai une question pour vous. » Connaissant la franchise de madame, je pressentais qu'il s'en venait quelque chose de lourd, de sérieux. Me pointant respectueusement du doigt, « Et vous, qu'est-ce que vous, vous avez fait pour vous retrouver ici? » Ma réaction intérieure, « Oh la vache! » De retour dans ma cellule, ma petite voix, outrée par ma réaction intérieure, de m'inviter à reconnaître. Non, Francine n'est pas une vache, mais sa question l'est. Francine avait frappé sur le clou, sur le bon clou, sur un des véritables clous du « pourquoi j'étais en dedans ». Quel grand pas franchi dans ma réhabilitation que cette rencontre avec la staccose, infectieuse maladie affectant des êtres humains dans leur dynamique de déresponsabilisation dont j'étais aussi hypothéqué. Toutes ces lignes d'écriture pour en arriver à remercier M. Chalifour pour tout ce qu'il a fait à l'endroit de la dignité de tous ces hommes. À Maître de Mers, en relève à la présidence, aux membres du conseil d'administration, à tous les membres du personnel et à M. Chalifour, ce mot de 5 lettres, merci. Il m'apparaît pertinent, voire essentiel, de conclure en écrivant que je suis une sorte de sous-produit de la maison Autonomie. AUTONHOMMIE, Centre de ressources pour hommes de Québec, maison de laquelle j'ai aussi énormément reçu. Merci au journaliste Pascal Fauché pour cette belle rencontre avec la dignité humaine et la recherche de celle-ci. Sans prétention. C'était « J'ai été de ces hommes ayant refusé de l'aide. » Un texte de Gaston Bourdage, paru le 9 avril 2025 dans La Voix de l'Est.
La saison de la reproduction débute pour les faucons de l'Université de Montréal. Un texte d'Alexandre Shields paru le 14 avril 2025 dans Le Devoir. La saison de reproduction vient de débuter pour les faucons pèlerins devenus des vedettes du web, du haut de leur nid installé au sommet de la tour du pavillon Roger Gaudry de l'Université de Montréal. La femelle, nommée Ève, vient de pondre un premier œuf. Ce premier œuf pondu dimanche en fin de journée devrait être suivi d'autres pontes au cours des prochains jours, puisqu'on s'attend à une possibilité de 4 œufs, comme en 2024, entre le 6 avril et le 13 avril, explique Ève Bellil, associée de recherche à Polytechnique Montréal. C'est elle qui a découvert par hasard, en 2007, la présence de faucons pèlerins au sommet de la tour. Elle a donc convaincu l'Université de Montréal d'installer un nichoir, une simple boîte de bois garnie de gravier, qui est maintenant utilisée depuis 2009. Pour le moment, tout semble se dérouler comme l'an dernier. En 2024, le couple de faucons installé au cœur de Montréal a produit un total de 4 fauconneaux, dont 3 ont survécu jusqu'à leur premier envol. On ne sait toutefois pas ce qu'il est advenu de ces oiseaux, précise Mme Bellil, mais aucun de ceux munis d'une bague d'identification n'a été revu ni retrouvé mort par la suite. Bonne nouvelle, résume Ève Bellil, en rappelant que les faucons de l'Université de Montréal sont devenus de véritables vedettes du web au fil des ans. Il y a maintenant 3 caméras et bientôt 4 qui suivent en permanence les oiseaux de proie qui occupent le nid. On peut donc assister en direct à leur comportement de reproduction, à certains de leurs repas, qui comptent surtout des pigeons, des étourneaux et des quiscales, aux affrontements avec d'autres faucons qui se présentent au nid, aux pontes et aux premières semaines de vie des fauconneaux. En raison de la présence de la grippe aviaire au Québec, il subsiste toujours des inquiétudes pour la survie de ces faucons pèlerins. Mais pour le moment, tout semble bien se passer pour ceux qui nichent à l'Université de Montréal. Espèces survivantes. L'observation de faucons pèlerins à l'Université de Montréal ou encore dans d'autres sites urbains comme les ponts Honoré-Mercier ou Jacques-Cartier aurait été impensable il y a à peine quelques années. Il faut savoir qu'au début des années 1970, l'espèce avait complètement disparu du sud du Québec. Dans le passé, le faucon pèlerin a en effet été décimé, principalement en raison de l'utilisation massive de DDT, un pesticide très toxique qui a provoqué des problèmes chroniques de reproduction chez ces oiseaux. Et même si le DDT a été interdit au Canada dès 1972, la situation du faucon pèlerin est demeurée critique pendant plusieurs années, notamment en raison de la persistance du pesticide dans l'environnement. Les premiers inventaires réalisés au Québec dans la vallée du Saint-Laurent indiquaient par exemple que l'espèce était pour ainsi dire rayée de la carte avant qu'on ne commence à gagner quelques rares couples nicheurs dans les années 1990. Les effectifs de ces rapaces ont fini par augmenter, notamment en raison de leur capacité d'adaptation en milieu urbain. Les oiseaux ont fait preuve de résilience et d'adaptabilité, notamment par une expansion rapide dans les villes, où ils profitent des sites de nidification urbains et des proies, notait ainsi le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada dans une évaluation publiée en 2017 qui classait l'espèce comme étant non en péril. Dans un rapport produit à la demande du gouvernement du Québec et publié en 2022, on souligne qu'après avoir connu une bonne augmentation de ses effectifs et un ralentissement plus récemment, le faucon pèlerin serait en bonne voie de rétablissement. On ajoute que cette espèce suscite un grand intérêt scientifique, ornithologique et photographique, notamment en raison de ses aptitudes de chasse, en piqué, le faucon peut atteindre une vitesse de plus de 300 km/h. De plus, étant donné sa position au sommet du réseau trophique, il est un bon indicateur de la qualité de l'habitat. Même si sa situation s'est grandement améliorée au Canada, l'espèce est toujours aux prises avec certaines menaces, dont les collisions avec les lignes à haute tension, les voitures ou les vitres d'édifices, le dérangement par l'escalade. Le faucon niche souvent à flanc de falaise ou les randonneurs ainsi que les éoliennes. C'était « La saison de la reproduction débute pour les faucons de l'Université de Montréal », un texte d'Alexandre Shields paru le 14 avril 2025 dans Le Devoir.
L'Université de Hearst veut miser sur la collaboration pour assurer sa pérennité. Un texte d'Anaïs Desjardins, paru le 28 mars 2025 dans Le Devoir. Augmenter son nombre d'étudiants malgré le plafonnement du nombre de permis d'études délivrés aux étrangers, une baisse du nombre de diplômés du secondaire dans le Nord ontarien et une clientèle uniquement francophone. Voilà l'épreuve à laquelle fait face l'Université de Hearst, indépendante depuis bientôt 4 ans. Mais selon sa rectrice, Aurélie Lacassagne, des partenariats comme celui récemment renouvelé avec le Collège nordique francophone de Yellowknife permettront à l'établissement de se distinguer et d'assurer sa pérennité financière. L'Université de Hearst a toujours été fragile. C'est lié à notre petitesse, à notre éloignement et à notre caractère francophone, estime Mme Lacassagne. Cela est d'autant plus vrai dans le contexte où l'autonomie récente de l'université apporte ses propres défis. L'Université de Hearst est devenue entièrement indépendante en 2021, après avoir rompu son affiliation avec l'Université Laurentienne qui, aux prises avec un déficit de dizaines de millions de dollars, avait éliminé 69 programmes, dont 28 en français. Près de 4 ans plus tard, l'établissement projette un manque à gagner d'environ 1,2 million pour l'année en cours, selon des informations recueillies par Radio-Canada, mais que l'Université de Hearst a refusé de confirmer au Devoir. L'année financière 2023-2024 s'était conclue avec un déficit de 58 155 $. C'est qu'en plus d'un manque de ressources, les petits établissements ne peuvent pas profiter d'économies d'échelle comme les grandes universités, fait valoir Mme Lacassagne. Elle pense prochainement atteindre un équilibre budgétaire grâce à une approche conservatrice et à une diversification de l'offre de l'établissement, même si plusieurs difficultés persistent. Démographie et nordicité. Les nouveaux diplômés francophones du secondaire se font moins nombreux dans la région chaque année. Et attirer des étudiants d'ailleurs au Canada est difficile, faute de visibilité. C'est pas toujours facile de vendre le Nord ontarien, explique la rectrice. Sur les quelques 320 étudiants de l'Université de Hearst, près de 80% proviennent de l'international, une dépendance qui peut s'avérer dangereuse. On n'est pas à l'abri d'une décision soudaine politique d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada qui change les règles du jeu. Ce n'est pas bon pour la gestion de risques, note-t-elle. En janvier 2024, le gouvernement fédéral a d'ailleurs annoncé un plafonnement de 2 ans du nombre de permis d'études délivrés à des étrangers. Après des protestations, quelques 2300 étudiants francophones ont été exemptés de ce calcul, ce qui représente 20% de la clientèle internationale francophone en milieu minoritaire, selon l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Pour l'Université de Hearst, cela a signifié une cohorte de 25 étudiants en moins cette année. Ça paraît ridicule si on est à l'Université d'Ottawa, mais c'est énorme pour nous. Ça aura des répercussions sur 4 années, explique Mme Lacassagne. Collaborer pour s'épanouir. En 2022, un premier partenariat avec le Collège nordique francophone de Yellowknife avait permis la mobilité des étudiants et des enseignants dans certains cours offerts par les deux établissements post-secondaires. Le renouvellement de cette entente doit mener à de nouvelles collaborations, encore à déterminer, dans des domaines allant du développement d'une chaire de recherche à la configuration des programmes des deux établissements afin d'encourager leur croissance mutuelle. « Tout est possible », dit Mme Lacassagne. Grâce au partage d'expertise et de ressources, de tels partenariats comblent certains manques de part et d'autre, mentionne la rectrice de l'Université de Hearst. À preuve, l'entente initiale de 2022 a conduit à l'accréditation du Collège nordique francophone comme établissement d'études post-secondaires en 2024. Cette collaboration renouvelée permettra au Collège nordique francophone de développer sa programmation universitaire, mais aussi de mettre en place des politiques de cybersécurité et de ressources humaines. De son côté, l'Université de Hearst veut offrir un accès bonifié au Nord-Canadien pour les étudiants internationaux en quête de sessions d'échange. Pour 80 % de mes étudiants, mes ententes d'échange à l'international ne fonctionnent pas. Ou ça devient extrêmement compliqué parce qu'ils doivent obtenir des visas, explique-t-elle. Aurélie Lacassagne est rectrice à l'Université de Hearst depuis mai 2024. L'établissement universitaire achevait alors sa transition vers son indépendance. À présent, il doit stabiliser ses finances, développer ses programmes et s'affirmer comme université de langue française, estime Mme Lacassagne. Il y a beaucoup de travail à faire, mais je veux être tournée vers l'avenir. La rectrice explique être en discussion avec d'autres établissements post-secondaires francophones afin de signer des ententes de collaboration et, ultimement, rejoindre plus de jeunes du Nord ontarien. On a un défi. On est limité par notre géographie, et quand vous grandissez dans le Nord, c'est vrai que vous voulez aller dans le sud, dans les grandes villes. Mais c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait des programmes et qu'ils veulent rester ou revenir, remarque-t-elle. C'était l'Université de Hearst, veut miser sur la collaboration pour assurer sa pérennité, un texte d'Anaïs Desjardins, paru le 28 mars 2025 dans Le Devoir.
Les juges et les défis de l'IA, l'intelligence artificielle peut-elle aider à désengorger les tribunaux? Manon Savard, juge en chef du Québec, est ouverte à l'idée, mais il faudra des balises claires. Un texte d'Isabelle Mathieu, paru dans le magazine L'Actualité. L'intelligence artificielle, IA, transforme tous les domaines, tribunaux compris. Et pas toujours pour le mieux. Une avocate de Vancouver a été blâmée par un juge au début de 2024 pour avoir intégré à sa requête deux causes de jurisprudence inventées de toutes pièces par ChatGPT, en omettant de s'assurer de leur véracité. Le potentiel de l'intelligence artificielle pour réduire coûts et délais dans un système de justice embourbé reste immense, dont celui de l'IA générative, conçue pour générer du contenu. Cette dernière a déjà fait son entrée dans l'arsenal des avocats canadiens grâce à des outils créés par des entreprises privées travaillant dans le monde de l'édition juridique, afin d'aider, notamment, à la recherche et à la rédaction des procédures. Les juges aussi veulent prendre le train de l'IA, assure la juge en chef du Québec, Manon Savard, qui siège au comité d'action sur la modernisation des activités judiciaires. Ce groupe de 11 juges de diverses régions du Canada a été formé en 2020 pour donner les grandes orientations en matière d'utilisation de la technologie au sein du système judiciaire. Mais utiliser l'IA pour rendre justice ne pourra se faire sans des outils adaptés aux tribunaux et à la magistrature. C'est l'intégrité du système de justice qui en dépend, estime Manon Savard. L'actualité l'a rencontrée à son bureau de la Cour d'appel dans le Vieux-Montréal. En quoi les outils intégrant l'IA générative pourraient-ils aider les juges dans leur travail? Les outils d'intelligence artificielle doivent être utilisés pour améliorer le processus décisionnel qui, lui, doit demeurer humain. L'outil ne doit jamais remplacer l'humain. L'IA peut servir, pour la recherche, pour la constitution de banque de données. À l'étape de la rédaction, elle peut aider les juges à résumer leurs pensées à partir de leurs propres informations. On pourrait aussi l'utiliser pour la gestion documentaire et la transcription des notes sténographiques. À la cour d'appel, je suis obligée d'attendre des mois la transcription des procès criminels en première instance. Si on était capable de l'avoir en quelques jours, ce serait extraordinaire. Nous, les juges, sommes intéressés par l'intelligence artificielle. Nous suivons régulièrement des formations sur ce sujet, autant sur le fonctionnement général de cette technologie que sur les enjeux éthiques. On va dans cette direction-là. Mais pour la magistrature, il faut calculer le bénéfice et le risque, car nous n'avons pas droit à l'erreur et nous devons maintenir la confiance du public. Y a-t-il lieu de s'en faire pour l'indépendance des juges qui utiliseront l'intelligence artificielle? Le gros défi que nous aurons sera de trouver l'équilibre entre, d'un côté, le recours à l'intelligence artificielle pour ce qui peut favoriser l'accès à la justice et, de l'autre côté, le maintien de notre indépendance et de notre impartialité. Dans une conférence de 2022, « L'intelligence artificielle et la fonction de juger » organisée par la Cour de cassation en France, on parlait du logiciel Compass, utilisé dans certains États américains pour prévoir le risque de récidive d'un criminel. Par exemple, lors de l'enquête sur la mise en liberté durant les procédures, on utilise cet outil et des données, comme les antécédents judiciaires, pour prédire la récidive. Des chercheurs ont noté une tendance de la part des juges à s'appuyer dans une grande mesure sur les informations fournies par l'outil. Et de plus en plus d'études établissent que lorsqu'un outil nous suggère une information, on a tendance à s'appuyer dessus. C'est un risque pour nous aussi. Quelles doivent être les caractéristiques des outils conçus pour les juges et le système judiciaire? Pour que l'intelligence artificielle soit utile aux tribunaux, on a besoin d'outils éprouvés sur le plan de la sécurité informatique qui seront conçus pour les tribunaux, testés par des experts et alimentés par des données fiables. Pour qu'elles le soient, elles doivent émaner des tribunaux, comme la jurisprudence, des lois et règlements applicables et d'auteurs reconnus. Est-ce le gouvernement du Québec qui devra mettre en œuvre ces outils pour ces tribunaux? Il faudra des discussions à ce sujet-là. Ça demande bien sûr une volonté du gouvernement et du financement. Il est évident que nous aurons besoin de ressources humaines au sein des tribunaux eux-mêmes pour des questions touchant l'indépendance judiciaire, la confidentialité et le secret du délibéré. Ces ressources humaines devront avoir l'expertise nécessaire pour s'assurer de la validité des outils, superviser adéquatement l'utilisation de l'IA et en mesurer les retombées concrètes. Et ici, l'objectif n'est pas seulement de gagner en productivité, c'est ultimement d'améliorer la qualité de la justice. La Cour d'appel du Québec, comme les autres cours au pays, a imposé des directives aux avocats qui utilisent l'IA. Ils doivent recouper l'information fournie par l'IA avec des bases de données fiables. Les directives sont-elles suffisantes? À l'heure actuelle, nos directives se ressemblent partout au Canada et sont fondées sur les mêmes trois principes directeurs très importants: s'assurer de la fiabilité des sources, avoir une intervention humaine qui révise ce qui a été fait par l'IA et, évidemment, faire preuve de prudence. Mais vu la vitesse à laquelle tout ça évolue, nous allons inévitablement devoir mettre à jour les directives. Certains pays vont-ils plus loin? L'Australie est bien avancée dans l'encadrement de l'IA par les tribunaux judiciaires. Les tribunaux australiens interdisent aux avocats le recours à l'intelligence artificielle pour la préparation d'une déclaration écrite de témoin. Ils ont une directive pour l'utilisation de l'IA lors de la préparation d'un rapport d'expert qui encadre plus précisément que nous la rédaction de représentations faites par les avocats et la rédaction de mémoires. Est-ce que nous allons nous rendre là, au Canada? Je ne pourrais pas répondre. Peu importe la longueur des directives, il faut que les tribunaux s'assurent de la validité de l'information et de l'absence de biais, de discrimination et de préjugés dans les résultats. Quel avantage l'IA peut-elle offrir aux personnes non représentées par un avocat, de plus en plus nombreuses devant les tribunaux? Il y a un bénéfice indéniable. Ça facilite beaucoup la recherche d'informations juridiques et la rédaction à un moindre coût. Mais le défi pour les gens qui n'ont pas de formation de juriste, c'est d'être en mesure de bien cerner les erreurs que l'outil va produire. La difficulté que nous avons en ce moment, c'est que l'intelligence artificielle accessible au grand public, comme ChatGPT, est bâtie à partir de données dont on ne connaît pas nécessairement l'origine ni la fiabilité, qui proviennent de tout Internet. D'où l'importance d'avoir des outils spécialisés pour le domaine juridique. Doit-on s'inquiéter du fait que l'IA facilite la création ou la falsification de preuves? Pourrait-elle berner des juges? Ce n'est pas ma plus grande préoccupation présentement. Il y a toujours eu des faussaires. Il y en avait pour imiter des signatures sur des chèques en papier. C'est vrai qu'on en est maintenant à un degré de perfectionnement beaucoup plus élevé. Je reste convaincue que, de la même façon qu'on a pu déceler la fraude grâce à des experts, on sera capable de le faire aussi à l'ère de l'intelligence artificielle. C'était Les juges et les défis de l'IA, un texte d'Isabelle Mathieu paru dans le magazine L'Actualité.